Vous écoutez Radio Onden sur le 90.9 FM. Aujourd'hui, nous recevons François Gabion à l'occasion de l'année du cinquantenaire de la catastrophe du puits Charles de Roche-la-Molière le 3 mai 1968 où 6 mineurs ont trouvé la mort lors d'un coup de grisou. Un film documentaire a été réalisé autour de témoignages de ce triste événement. Et nous recevons aujourd'hui donc le réalisateur de ce film, François Gabion, qui est également président des artistes amis réunis. Et nous le recevons pourquoi ? Parce qu'il y a des projections prévues pour ce film documentaire qui s'appelle Témoignages. Ces projections sont prévues à l'occasion de la Sainte-Barbe de cette année, à la Cinémathèque de Saint-Étienne, notamment le 3 décembre, et puis à la salle Pinatel de Saint-Gédélaire. Ce sera donc le 4 décembre prochain à 20h. François Gabion, bienvenue sur l'antenne de Radio Onden.
Mais bonjour.
Alors, pas mal d'éléments annoncés dans cette introduction. Et on va commencer par le début. Qui sont et qu'est-ce que l'association Les Artistes Amis Réunis ?
Alors, Les Artistes Amis Réunis est une association qui a été créée à Roche-la-Molière il y a 30 ans. Enfin, il y aura 30 ans en 2020, qui regroupait au départ des artistes, surtout des peintres, des aquarellistes, des dessinateurs de Roche-la-Molière, qui ont été rejoints par des artistes de Saint-Genélaire. Et puis, au fil du temps, cette association a évolué en accueillant des artisans, des potiers, enfin, même des gens qui faisaient des vitraux, enfin, qui permettaient aux gens de pouvoir s'exprimer au-delà de toute contrainte de sélection. Enfin, chez nous, tout le monde est accueilli et il n'y a pas d'examen pour rentrer dans l'association, ce qui permet d'avoir vraiment une culture de terrain et de terroir. Comme j'aime souvent le répéter.
Alors, des disciplines qui ont évolué, des membres également qui sont nombreux. Et puis, donc, si on en revient aux disciplines, et l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est aussi la réalisation de films.
Alors, la réalisation de films, c'est quelque chose qui est venu en 2011 avec une première réalisation d'un long métrage sur un scénario d'Yves Martinengot, qui a écrit déjà plusieurs scénarios dans la région, et qui s'appelait L'héritier des Murènes, qui a été tourné dans les environs très proches. Hein, le rayon d'action, c'est 10 km autour de Saint-Étienne, mais ça a permis de montrer qu'on pouvait très bien trouver des lieux pour écrire une histoire, et c'est une fiction. Ouais.
Alors là, si l'on parle de témoignage, le film du souvenir, ce n'est pas une fiction. C'est un film documentaire qui commémore ce triste accident qui a donc eu lieu le 3 mai 1968 au puits Charles de Roche-la-Molière. Rappel des faits.
Alors, rappel des faits, le 3 mai 1968, un coup de grisou au puits Charles a lieu. C'est au même moment qu'on a le début des événements de mai 68 à Paris, effectivement, et on s'aperçoit que dans ce domaine-là, les événements de mai 68 ont un peu étouffé le ressenti sur la catastrophe, notamment sur la presse, parce que quand on recherche dans les archives sur la presse locale, il y a quelques articles les premiers jours, et puis après, les journaux sont en grève, donc on n'a pas un relais, dans la presse de cet événement. Donc, ce qui nous a permis d'avoir des éclairages un petit peu plus particuliers en interrogeant les familles des victimes de cette catastrophe.
Alors, où en est le puits Charles à ce moment-là, le 3 mai on en est à quelle période de son activité ?
Alors, le 3 mai, le puits Charles est encore en pleine activité. Je ne saurais vous dire les tonnages qui étaient encore sortis, mais il y avait de nombreuses équipes de mineurs qui travaillaient sur ce puits, où il y avait des couches d'assez bonne rentabilité, mais des couches qui étaient dans des zones très grisouteuses.
D'accord. Si l'on parle de cette catastrophe, au niveau régional, c'est la dernière en date ?
Alors, ce n'est pas les derniers morts qu'il y a eu hier, mais c'est la dernière catastrophe, proprement dite. Il y a eu encore des accidents du travail après, jusqu'à la fin d'exploitation dans les années 82-83, mais c'est le dernier la dernière grosse catastrophe qui a eu lieu sur le territoire des mines de la Loire.
Alors, la réflexion autour de ce film documentaire, comment elle a débuté? Qu'est-ce que vous avez imaginé avant même les premières prises de vue?
Alors, comment est né le projet? Le projet est né, notre association faisait partie d'une association locale sur Roche-Amalière qui s'appelait Mine en fait, qui avait pour but de valoriser un petit peu ce patrimoine minier, l'histoire de la mine, et on était plusieurs associations regroupées dans cette association, qui n'existe plus aujourd'hui, mais on avait lié des liens avec d'autres associations, notamment Anne aux Gueules Noires, hein, qui perpétue le souvenir et qui est fortement implantée sur la cité de Beaulieu, Roche-Lamelière. Et c'est eux qui nous ont demandé, effectivement, on aimerait faire quelque chose pour le cinquantenaire de la catastrophe du Puy-Charles, on aimerait faire des images et des choses comme ça. On s'est réunis plusieurs fois, on a travaillé un petit peu... Dans le vague, hein, au départ, hein, parce que l'idée, c'était pas forcément l'idée de sortir un DVD. Et puis, au fil du temps, on a dit ça serait bien de pouvoir capter les témoignages. Et puis, il y en a un qui a dit ah, mais il y a un tel qui voudrait témoigner, il y a un tel. Donc, ça s'est fait un petit peu de cette façon-là. Et puis, un jour, quelqu'un a amené à une de ces réunions des photos des funérailles des mineurs. C'est d'ailleurs assez étonnant que des gens aient pris des photos de ces funérailles. Des particuliers. Et moi, quand j'ai vu l'enchaînement de ces photos, j'ai déjà vu le déroulé d'un film, d'un convoi, des choses comme ça. D'ailleurs, dans le film, on a monté ça un petit peu en convoi, qui est la fin du film pour montrer un petit peu ces funérailles. Et en partant de là, on a dit, tiens, on a des éléments visuels, il faudrait qu'on articule d'autres choses. Et le projet est né de cette façon-là.
Alors, il a bien fallu retrouver les familles et puis leur demander de se mettre devant une caméra et parler de cet événement-là. Comment ça s'est passé?
Alors, c'est tout un travail qui a été fait par quelques personnes de Anne aux Gueules Noires qui connaissaient les personnes. Et puis, on les a amenés. Alors, on a fait des interviews très, très ciblées. On a pris chaque fois pratiquement un morceau d'après-midi pour faire l'interview de la personne. On a commencé à discuter un petit peu avec elle pour la mettre à l'aise. Mais il y a eu une grande aisance de toutes les personnes pour se livrer devant la caméra. Et c'était assez troublant parce que, effectivement, ces gens-là sont allés au fond d'eux-mêmes, hein, sont allés chercher peut-être des choses, certainement, même sûrement des choses très, très douloureuses, mais qui avaient un impact et qui marquaient quand même le poids de cette catastrophe. Et certains en avaient très peu parlé et ça a été pour eux peut-être l'occasion de raviver une mémoire, mais c'est d'une manière très, très sereine. Et ça, j'en suis encore très ému.
Alors j'imagine, alors justement, quelles précautions faut-il prendre quand on rentre dans l'intime? Et surtout l'intime, et vous venez de le dire, de quelque chose qui a été peut-être non pas tu, mais pas trop dit.
Oui, parce que à l'époque, faut savoir qu'on parlait très peu des choses. Il y a des enfants là qui avaient quelques 7-8 ans à l'époque, qui ont dit on n'en parlait pas, qu'on les emmenait chez les voisins, on n'en parlait pas, et ça leur a fait du bien d'en parler, quoi, de ramener ces souvenirs sur la table. On s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une catastrophe, on met une cellule de crise, une cellule psychologique, qu'à l'époque, il n'y a rien eu de tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a des témoignages de gens un peu plus éloignés de ces mineurs-là, pas les familles, mais des gens qui travaillaient dans ces mines-là, mais peut-être plus d'un côté administratif?
Alors, en témoignage, on a le témoignage de deux mineurs qui ont travaillé sur le site, et notamment un mineur qui a fait partie des sauveteurs, où il explique dans le film qu'on l'a réveillé à 9h du matin, il avait fait le poste de nuit, on l'a réveillé à 9h du matin pour aller porter les premiers secours aux personnes qui étaient dans le fond. Et effectivement, ça a été assez impressionnant parce que ces gens-là, ils ont vu de très près cette catastrophe.
sur les familles, on va revenir sur les familles qui ont été interrogées, quand on réalise un documentaire, on a quand même une petite idée hein, dans la tête de ce qui va se dire. Alors on n'a pas tous les propos, mais on imagine de toute façon pour déjà avoir une image du projet final. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris et étonné dans ces témoignages-là ?
Alors il y a des choses qui nous ont surpris, c'est que certains n'ont pas de rancœur par rapport au hier, voilà, il y a une certaine fatalité à avoir accepté cet événement.
Alors, ce film documentaire, il dure combien de temps ?
Alors, ce film, il dure une heure deux, une heure trois, effectivement, et on l'a travaillé par thème, hein, les problèmes du ressenti psychologique, les problèmes d'argent, les problèmes du ressenti par rapport aux ouvrières. Et on n'a pas le témoignage d'un seul volet des personnes, on a recoupé en tranches, ce qui a demandé de longues heures de réécoute des enregistrements. Et puis, à la suite des enregistrements aussi, certaines personnes nous ont dit « Oh là là, ça, il ne faudrait pas qu'on en parle ». Donc on savait aussi d'autorité que sur certaines choses beaucoup plus sensible, ça n'apparaîtrait pas dans le film.
Alors, est-ce qu'il y a un travail de narration derrière ?
Non, il n'y a aucune narration. Tout le film est uniquement du témoignage.
Du témoignage, des images fixes, ou est-ce que vous avez inséré aussi des images de la mine pour nous mettre dans cette ambiance ?
Alors, on a inséré quelques images de la mine, et il faut savoir qu'on a filmer tous les interviews sur un fond vert pour pouvoir faire des incrustations d'images. Et chaque fois, on a en arrière-plan de la personne qui est interviewée une image, quelquefois le portrait de la personne qui a été victime de la catastrophe, de façon à donner un petit peu plus de vie à ces témoignages.
Alors, une première projection a eu lieu au mois de février de cette année 2019. Vous avez souhaité coupler la sortie de ce film témoignage avec un DVD qui montre aussi les événements qui se tiennent lors de la Sainte-Barbe. La première projection, et avant même cette première projection, comment s'est passé ? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez souhaité aussi proposer la primeur de la première fois aux témoins.
Oui, c'est-à-dire que comme c'était adossé aux 50 ans de la catastrophe du Puy-Charles et qu'on a filmé les cérémonies en intégralité sur Beaulieu-Roche-la-Molière, on a l'après-midi projeté à titre privé aux familles concernées par la catastrophe et puis aux amis de ces familles un premier jet du montage qu'on avait fait de leur témoignage. Hein, et à ce moment-là, effectivement, notre projet a été validé. Et il y a même des personnes qui ont dit « Nous aussi, on a envie de témoigner ». Et on a rajouté des témoignages sur le premier jet qu'on avait fait pour la Sainte-Barbe 2018.
Alors, première projection au grand public en 2019, mois de février, et puis là on revient avec ces dates-là. Le 3 décembre, c'est à 14h30, c'est à la Cinémathèque de Saint-Étienne, et puis le lendemain, le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe, c'est à 20h à la salle Pinatel de Saint-Genélaire. Alors comment faut-il faire pour venir ? Est-ce que ce sont des projections gratuites ?
Ce sont des projections gratuites, mais il y aura possibilité à ces projections de pouvoir acquérir le double DVD. Et puis il y a un petit livret sur lequel on a mis quelques coupures de presse de l'époque et puis quelques photos dont j'ai parlé tout à l'heure. Le DVD, on n'a pas voulu en faire une affaire commerciale puisque le double DVD est vendu pour la somme de 10 euros.
Donc le prix de revient de fabrication,
oui,
et on compte pas les heures bénévoles passées autour du tournage.
On comptera pas les heures de main d'œuvre.
Voilà. maintenant, si on élargit un peu plus le propos, effectivement, ces témoignages sur la mine dans notre environnement minier, hein, très très prégnant ici. Comment vous le voyez, vous ? Est-ce que avec les générations qui passent, les nouvelles générations, est-ce que ce moment de la mine, c'est quelque chose qui vous semble encore d'actualité, non pas dans l'activité, mais d'actualité dans les têtes ?
Je pense que ça, c'est pas toujours d'actualité, parce qu'il y a des gens qui disent la mine, on veut plus en entendre parler à Saint-Étienne ou dans la région. Moi, je pense que c'est quand même la mine qui a fait vivre une grande partie du pays, parce que sans les richesses minières, je pense que l'essor industriel n'aurait pas eu lieu. Et c'est un petit peu, je l'avais noté dans dans la présentation du DVD, en mémoire de ces gens qui ont sacrifié leur vie pour notre société d'aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas les oublier, quoi.
Ouais, et on s'aperçoit, hein, dans ma question, c'était finalement dans une discussion qu'on peut avoir de petits-fils de mineurs, de fils de mineurs ou d'arrière-petits-fils de mineurs. On est attaché quand même à cette terre noire qui existe autour de nous.
Oui, puis il faut savoir quand même que la mine a apporté quand même certaines qualités de vie. On disait à une époque femme de mineur, femme de seigneur, effectivement. Et quand on pose la question à ces mineurs, ils disent ça serait à refaire, j'y retournerai, quoi.
Non, bah voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il est prévu pour les artistes amis réunis pour, au-delà de ces projections-là ? Est-ce qu'il y a de futures activités ?
Alors au-delà de ces projections, nous avons notre exposition du mois de novembre, de l'automne, qui aura lieu à la salle Louis-Richard à Saint-Genès-l'Air les 23 et 24 novembre. Nous sortons à l'occasion de cette exposition un calendrier, un calendrier qui doit faire 78 pages. Donc on a à peu près deux œuvres par artiste de l'association qui sont dans ce calendrier. Et puis on a mis à l'honneur aussi des gens qui ont porté l'association depuis ces 30 ans. Et on a quelques personnalités marquantes de l'association pour lesquelles on a mis les œuvres dans le calendrier. Alors nous allons le vendre aussi à un prix relativement raisonnable, hein, puisqu'il sera vendu au prix de 8 euros, et il y aura 1 euro par calendrier qui sera réservé au Téléthon, puisque nous sommes dans la période du Téléthon, et nous avons toujours à cœur, nous, dans notre association, de renvoyer la balle pour des actions caritatives de proximité ou nationales, comme c'est le cas pour le Téléthon.
Bon, bah c'est noté, et pour vous, des prochains films, des idées de réalisation, des choses qui sont en train de germer ?
Alors, pour les prochains films, j'ai parlé d'un premier long métrage qu'on avait tourné. On a tourné un deuxième long métrage qui s'appelle La Porte des Fées, qui est une remontée dans le temps, puisqu'on est remonté en 1944 avec ce film-là. C'était à cheval entre 44 et notre époque. Donc, pouvons-nous comprendre les mécanismes du temps ? C'est le sous-titre du film. Et effectivement, réaliser un long métrage, c'est très chronophage, surtout quand on est amateur et qu'il faut jongler avec les emplois du temps des uns et des autres. Non, notre but aujourd'hui, c'est peut-être plus de rendre service à des associations en faisant des partenariats un petit peu dans le même esprit que l'on a fait avec Anneau Gueulenoir. On a des projets, notamment sur Roche-la-Molière, pour valoriser l'image du château de Roche-la-Molière avec l'association Amis Proches. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas de gros projets dans les starting blocks pour le moment.
Alors, l'objet de cette émission était autour de témoignages, le film du souvenir du cinquantenaire de la catastrophe du 3 mai 1968 du Puy Charles de Roche-la-Molière. Projection de ce film prévue le mardi 3 décembre à 14h30 à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Le lendemain, le 4 décembre, c'est à 20h à la salle Pinatel de Saint-Genès-l'Air. François Gabion, merci d'être venu sur l'antenne de Radio Ondaine. On se quitte avec une chanson, Les Mains d'Or, et c'est Bernard Lavilliers. Au revoir.
Au revoir.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. voir des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi. D'après les experts, je me tais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge.